Ces derniers temps, je rencontre des gens qui reviennent à leur terre. Certains l'avaient depuis longtemps quittée, d'autres n'étaient jamais vraiment partis ou avaient coupé la poire en deux, séparant leur temps, leur vie, entre ici et là-bas. Il y a aussi évidemment ceux qui font d'ailleurs leur chez-soi, mais ces derniers temps, je rencontre des gens qui reviennent à leur terre. Et tous y trouvent ou retrouvent leur place. Ils en parlent avec tant de passion, d'amour, de volonté, rien ne semble impossible à créer ou imaginer en de tels lieux. C'est certainement d'abord parce qu'on y décèle, au premier coup d'œil, une humanité réconfortante, parce qu'il y a une proximité entre les gens, parce qu'on a ici, sur cette terre que l'on appelle chez nous, une connexion, de multiples connexions, aux lieux et aux gens. Même si le lien est moins évident qu'il semblait l'être autrefois, je crois qu'ici, sur cette terre que l'on appelle chez nous, il nous est encore possible de mettre un prénom sur la plupart des visages que l'on croise, de lâcher un bonjour sans être dévisagé. On y revient avec des projets, on s'investit et on est conforté par cette humanité. On ose mettre en œuvre des projets, on recrée du lien petit à petit, on le maintient sur cette terre que l'on appelle chez nous, celle où nous avons grandi, celle à laquelle nous sommes revenus ou celle que nous nous sommes choisis. Ce matin, ces trois cas de figure seront abordés. Celui qui est revenu à sa terre, celui qui n'en est jamais vraiment parti et celle qui a choisi la sienne.
See
la douce voix d'Agnès Obel. Alors nous allons commencer avec celui qui est revenu à sa terre. Il s'appelle Laurent Rohr et j'ai donc enregistré cette interview du côté de Clermont-Ferrand. Vous entendrez donc juste avant Benoît Bouscarel qui lance cette petite interview. Ne soyez pas surpris.
Merci d'écouter la radio du Pam Pam, il est 18h.
Je suis un peu fatigué maintenant, j'ai sommeil. Hein.
Vous écoutez la radio de mai. Il est 18h.
Je décide de me coucher.
Et on retrouve à 18h Margot et son invité, Laurent Rohr. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Laurent.
Bonsoir Margot.
Alors Laurent, vous êtes aujourd'hui responsable d'exploitation de la ferme urbaine à Clermont-Ferrand. Mais vous avez d'abord eu une vie de journaliste, puis une vie d'assistant parlementaire. Assistant parlementaire de député européen siégeant à la commission agricole du Parlement européen. Alors est-ce que votre intérêt pour l'agriculture est né à ce moment-là ?
Alors, mon intérêt pour l'agriculture, il est multiple et puis il est lié aussi à mon histoire familiale. J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance chez ma grand-mère en Haute-Savoie et on était une famille qui était issue d'un milieu rural. Et donc, ma grand-mère avait des animaux, elle avait des volailles, elle avait des lapins, elle faisait du jardin. Et j'ai toujours eu un attrait affectif pour l'agriculture, même si j'appelais pas ça l'agriculture à l'époque. Mais c'est vrai que mes activités au Parlement européen, en travaillant pour donc Daniel Auroi, qui était député Europe Écologie au Parlement et qui siégeait à la Commission Agriculture et Développement Rural, j'ai donc passé quelques années à effectuer l'essentiel de mon temps de travail sur des matières agricoles. Et ça m'a posé des questions et ça m'a effectivement rapproché du milieu agricole.
Est-ce que c'est ça qui vous a lancé dans ce projet de ferme urbaine ?
Eh bien, pas tout à fait, mais ça y a quand même contribué, parce que je travaillais beaucoup sur l'Europe du Nord, l'Europe centrale, et il y a beaucoup de grandes villes dans ces pays où les espaces en déshérence, où les friches urbaines sont laissées à des initiatives citoyennes ou associatives, et il y a beaucoup d'expérimentations de jardins, de fours à pain, de lieux, et on s'aperçoit que finalement c'est intéressant pour la collectivité, parce que ça développe les circuits court, ça développe la saisonnalité, mais ça crée aussi du lien social, ça crée du lien intergénérationnel, on voit que les incivilités baissent et que les gens se rencontrent et simplement prennent soin des uns des autres parce qu'ils partagent des activités ensemble et qui sont de plus liées à des valeurs agricoles, donc écologiques, et c'est important à notre époque.
Et donc toutes ces découvertes que vous avez faites tout au long de votre carrière, vous avez décidé de les appliquer ici, aujourd'hui, à Clermont-Ferrand. Ça fait depuis 2016 que ça existe, cette ferme, c'est ça ?
Oui, le projet s'est lancé. Bon, alors après, bien évidemment, moi, je n'avais pas de moyens financiers au départ. Donc j'ai demandé, et ça me paraissait cohérent aussi, l'aide des collectivités locales. La métropole a prêté écoute à mon projet. Donc ils ont réfléchi à des solutions foncières. Déjà, il fallait trouver des terres qui soient à la fois des terrains pas trop pollués, parce que bon, si on veut faire du bio et qu'on veut se lancer dans quelque chose, tout ça, ça met des années. Donc si en plus il faut dépolluer, ça, on s'est dans une autre problématique qui est intéressante aussi, mais qui nécessite beaucoup plus de temps. Et bon, là, il fallait que les choses aillent assez vite. Et donc la métropole a mis à disposition de l'association Ferme Urbaine qui s'était créée entre-temps pour avoir une entité juridique, des terrains qui avait au départ une autre vocation, puisque c'est des terrains qui avaient été préemptés par la métropole dans les années... Enfin, on n'appelait pas ça comme ça, c'était pas la métropole, c'était la communauté urbaine. Mais ils devaient faire une quatre voies qui devait relier Chamalières à Beaumont. Ça ne s'est pas fait. Pour l'instant, le projet est toujours dans les cartons, mais n'est plus d'actualité. Et donc, ces terrains ont été mis à disposition de la ferme urbaine. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti.
C'est des terrains que vous exploitez aujourd'hui en permaculture ? Alors, avant peut-être d'expliquer ce que vous y faites, est-ce que vous pouvez expliquer globalement ce que c'est que la permaculture ?
C'est pas un cadeau que vous me faites, Margot, d'expliquer ce que c'est que la permaculture. Je serais d'ailleurs bien incapable d'expliquer ce que c'est que la permaculture. Alors après, bon, à la ferme urbaine, on a une approche un peu, comment peut-on dire, anthropique de la chose agricole, c'est-à-dire que c'est à la fois des gens, du respect de la nature et comment ça peut s'imbriquer dans la ville, dans un quartier, que ça puisse toucher toutes les catégories sociales. Et puis, comment peut-on responsabiliser les gens sur le fait qu'il faut essayer de manger des choses qui soient produites localement, qui n'aient pas voyagé, qui soient de saison, etc. Alors après, tout ça, ça doit se faire dans une espèce d'harmonie. Alors, on y tend, on y travaille, mais une agriculture douce avec le respect des plantes, des gens, des animaux. Et que
respect de la biodiversité, de la saisonnalité, ça c'est quand même deux choses majeures.
Ça, c'est les choses qui sont les plus importantes. Et puis surtout, permettre à la biodiversité locale, parce qu'on croit toujours que les friches sont des espaces naturels préservés, mais des fois, elles sont tellement épaisses que les animaux ne circulent plus, qu'il y a des espèces qui étaient là avant qui ne peuvent plus se développer. Nous, on a vu en défrichant des terrains l'année dernière, la réapparition d'orchidées qui sont plus ou moins endémiques de ces coteaux, mais qui avaient disparu de ces endroits parce qu'elles n'avaient pas la place de s'exprimer.
Alors vous l'évoquiez il y a quelques minutes, parmi les motivations et ce choix de la permaculture, il y a aussi la recherche d'une émancipation face au modèle consumériste qui domine aujourd'hui.
Ah ben oui, il domine aujourd'hui. Et puis de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, on peut arguer à l'agriculture urbaine ou aux expérimentations telles qu'on les mène actuellement d'être sous perfusion des pouvoirs publics parce qu'on ne fait pas de la production vraiment. Voilà. Mais d'un autre côté, l'agriculture conventionnelle aujourd'hui, elle est sous perfusion de l'Europe. Sans la PAC, il n'y a plus d'agriculture conventionnelle. Et ça, c'est... Je ne remets pas en cause le savoir-faire des paysans qui sont pris dans un engrenage. Ils n'ont pas d'autres solutions. Ils sont obligés d'emprunter, d'investir, d'utiliser des tas de produits, d'avoir une rentabilité. Ils ne sont plus maîtres de leur savoir. Ça fait longtemps que leur savoir n'a plus vraiment d'importance puisqu'ils sont, ils appliquent des recettes et des plans de financement. Oui, l'agriculture aujourd'hui, elle est complètement dépendante de subventions et... il faut absolument s'éloigner de ça et c'est surtout retrouver une agriculture qui soit naturelle et qui soit de la micro-agriculture où il n'y ait plus besoin de faire des immenses espaces.
Qui soit aussi ancré dans le local parce que vous avez choisi de travailler en circuit court, voire très court.
Oui, les circuits, il faut qu'ils soient les plus courts possibles. C'est-à-dire que après, on n'a plus besoin de se justifier. C'est-à-dire que les gens qui viennent à la ferme urbaine, nous, par exemple, on n'est pas bio, on n'a pas de label bio. Mais pour les gens, on est bio parce qu'ils voient, comment on travaille, ils le savent parce qu'ils sont juste à côté de chez nous. Et que ça aussi, c'est important dans les circuits courts, c'est cette confiance qui s'établit. On connaît, là, on résout le problème de la traçabilité. On sait d'où ça vient directement et il y a un contact. Et c'est peut-être une agriculture comme ça qu'il faudrait mettre en place. Et c'est certainement des pistes à réfléchir, en tout cas dans les grands systèmes urbains ou dans les conurbations.
Il y a le contact, c'est quelque chose qui est aussi primordial dans votre système. Parce que vous faites venir des gens, vous faites venir des associations. Vous avez créé un vrai système qui implique énormément de gens.
Bah, qui implique des gens. Alors, il y a un noyau dur à la ferme urbaine qui compte une dizaine de personnes. Et c'est difficile, avec les moyens qu'on a, d'être plus actuellement. Parce que c'est tous des gens qui ont des compétences bien spécifiques, qui ont des domaines et qui sont aujourd'hui autonomes pour prendre en main des dossiers, pour gérer tout ce qu'on a à faire à la ferme. À côté de ça, ça implique des gens du quartier, ça implique des écoles, ça implique des instituts médico-éducatifs, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a des tas de gens qui ont envie et besoin d'un outil comme ça qui soit à la disposition du public pour justement se familiariser avec les grandes problématiques de la transition écologique et des solutions agricoles qu'on peut trouver en ville.
Est-ce que c'était un prétexte, cette ferme urbaine, pour recréer du lien ou est-ce que l'agriculture, ça peut vraiment être vecteur de lien social ?
Je pense que l'agriculture est vecteur de lien social, c'est notre histoire. Les fêtes patronales, les repas, le calendrier qui tourne autour des moissons, etc. Bien évidemment, l'agriculture, c'est nos racines et le lien social, il est là.
Alors si on a envie et besoin de lien social, on peut vous retrouver rue Pavin,
Patin ? Rue du Pavin.
Rue du Pavin à Clermont-Ferrand.
Et toutes les lac de la région de Clermont.
Et toutes les infos à retrouver sur le site internet et le Facebook aussi.
C'est ça, puisque malgré tout, on utilise quand même les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Laurent.
Merci, Margot. Merci aussi à votre invité qui a une approche anthropique de la chose agricole. Le foutage de gueule.
C'était joli, non ?
Non.
C'était pas joli ?
C'est comme ça que les choses arrivent.
Petite blague entre amis. pour achever ce petit reportage, puisque Laurent Rohr et Benoît Bouscarel avaient monté il y a de ça quelques années Radio Campus Clermont-Ferrand ensemble. D'où cette petite boutade de fin d'interview. Si vous êtes un petit peu concerné par tout ce qui se passe dans le monde agricole et surtout localement, les mots de Laurent Rohr auront peut-être résonné dans vos esprits et vous auront évoqué les principes de l'agriculture poétique qui sont mis en place du côté de la ferme Bacotte. On en reparle dans quelques minutes. Pour l'instant, on va écouter Cléosol, Why Don't You, et il sera 10h dans la foulée.